これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Hey, venga.
Le gai savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la technique, Pierre Mine.
Et à la réalisation, François Connac. Disons-le tout de suite, l'antisémitisme compose pour la philosophie un merveilleux objet d'étude, simultanément complexe et transparent. Peu de maladies ont le bon goût d'apparaître autant et d'offrir à ce point leurs symptômes au scalpel du penseur, de sorte que travailler sur l'antisémitisme, eh bien, c'est un plaisir. Et oui, et c'est à ce plaisir qui n'a rien de coupable que se livre Jean-Paul Sartre dans ses réflexions sur la question juive, qui sont en réalité, vous allez le voir et l'entendre, des réflexions sur la réponse antisémite à la question juive, ou, si vous préférez, sur la fumée sans feu que produit une conviction si fausse qu'elle falsifie le réel pour lui donner les contours de sa peur. L'antisémitisme, à tous égards, c'est une passion.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Monsieur de Charlus s'interrompit pour me poser des questions sur Bloch, dont on avait parlé sans qu'il eût l'air d'entendre, chez Madame de Villeparisis. Et de cet accent dont il savait si bien détacher ce qu'il disait qu'il avait l'air de penser à tout autre chose et de parler machinalement par simple politesse. Il me demanda si mon camarade était jeune, était beau, etc. Bloch, s'il eût entendu, eût été plus en peine encore que pour Monsieur de Norpois, mais à cause de raisons bien différentes, de savoir si Monsieur de Charlus était pour ou contre Dreyfus. « Vous n'avez pas tort, si vous voulez vous instruire, me dit Monsieur de Charlus, après m'avoir posé ces questions sur Bloch, d'avoir parmi vos amis quelques étrangers. » Je répondis que Bloch était français. « Ah, me dit Monsieur de Charlus, j'avais cru qu'il était juif. Peut-être pourriez-vous demander à votre ami de me faire assister à quelques belles fêtes au temple, à une circoncision, à des chants juifs. Il pourrait peut-être louer une salle et me donner quelques divertissements bibliques, comme les filles de Saint-Cyr jouèrent des scènes tirées des psaumes par Racine pour distraire Louis XIV. » Vous pourriez peut-être arranger même des parties pour faire rire. Par exemple, une lutte entre votre ami et son père, où il le blesserait, comme David Goliath. Cela composerait une farce assez plaisante. Il pourrait même, pendant qu'il y est, frapper à coups redoublés sur sa charogne, ou comme dirait ma vieille bonne, sur sa carogne de mère. Voilà qui serait fort bien fait, et ne serait pas pour nous déplaire, hein, petit ami, puisque nous aimons les spectacles exotiques, et que frapper cette créature extra-européenne, ce serait donner une correction méritée à un vieux chameau. En disant ces mots affreux et presque fous, M. de Charlus me serrait le bras à me faire mal.
Mais vous êtes incorrigible, Paola. Quoi qu'on fasse, vous parlez de Proust.
Oui, hein? c'était...
Vous recyclez la recherche dans toutes les circonstances, vous. Hein? On fait une émission sur Sartre et vous partez sur Proust.
Mais c'est comme ça. C'était pour être sûr de vous intéresser à mon chapeau, Raphaël.
Ah oui, ben, je vois. À votre chapeau. Oui, il a bon dos, votre chapeau. En plus, je vous signale, malhonnête, entre guillemets, que vous avez coupé le passage que vous avez cité.
Coupe.
Une petite coupe, une petite coupette. Parce que, effectivement, au cours de cette tirade insensée, puisque vous me lancez là-dessus que le baron de Charlus... En fait, c'est une tirade dont le seul but du baron de Charlus est de connaître l'adresse de Bloch. Et pour connaître l'adresse de Bloch, Charlus s'indigne. Alors, avant d'en venir à cette proposition d'une cérémonie où Bloch battrait son père et lui ferait un peu mal sous les yeux de Louis XIV Charlus, avant cette proposition, Charlus, qui se refuse de condamner en Bloch, puisque Bloch il y a, dit-il, une nation qui compte Spinoza dans ses rangs, ben Charlus commence par s'indigner. Pourquoi les juifs fortunés profanent-ils des domaines antiques, sinon par goût du sacrilège? Au lieu de demeurer, dit-il, dans des ghettos homogènes, pleins de caractères hébreux sur les boutiques, de fabriques de pain azim, de boucheries juives, comment se fait-il que les fils de Sion, dit-il, choisissent d'élire domicile dans des lieux dits le prieuré, l'abbaye, le monastère, la maison Dieu, voire Pont-l'Évêque. D'ailleurs, il ajoute, il se demande si ça n'est pas à Pont-l'Évêque que demeurait un étrange juif qui avait fait bouillir des hosties, après quoi, ajoute-t-il, je pense qu'on le fit bouillir lui-même, ce qui est plus étrange encore, puisque cela a l'air de signifier que le corps d'un juif peut valoir autant que le corps du bon Dieu. Et au terme de tout cela, Charlus en vient à demander l'adresse de Bloch, parce qu'en fait, Charlus trouve que Bloch est joli garçon. Il lui plaît. Et comme souvent chez Charlus, le désir s'exprime d'abord par l'agressivité. Et en l'occurrence, c'est l'agressivité qu'il porte à Bloch. C'est vrai que, puisqu'on en parle, mais on reste un instant dessus, c'est vrai que la recherche du temps perdu est un grand livre sur l'antisémitisme français. Et avec des personnages ambigus, comme le baron de Charlus, comme Madame Verdurin, comme Madame Sazerat. Les particularités de ces trois personnages dans la recherche, c'est que ce sont trois antisémites, incontestables, hein, mais trois antisémites Dreyfusards. Charlus est Dreyfusard, dans la mesure où, à ses yeux, Dreyfus aurait commis un crime contre sa patrie s'il avait trahi la Judée. Mais ça n'a rien à voir avec la France. Votre Dreyfus, dit-il, pourrait plutôt être condamné pour infraction aux règles de l'hospitalité. Quant à Madame Verdurin, son antisémitisme ordinaire ne l'empêche pas de défendre en toutes circonstances l'innocence du bagnard. Et enfin, Madame Sazra, alors ça c'est un mystère complet, elle est absolument antisémite, mais dans le même temps, elle ne pardonne pas aux anti-Dreyfusards et elle va jusqu'à devenir l'amie du père de Bloch, lequel se réjouit de cette amitié parce qu'il trouve dans l'antisémitisme de la dame la preuve de la sincérité de sa foi, ce qui est quand même extraordinaire. Donc vous avez dans la recherche effectivement toute une galerie d'antisémites tout à fait intéressants, en particulier les antisémites Dreyfusards.
Alors vous avez dit au tout début, vous avez cité une phrase de Sartre, vous avez dit que l'antisémitisme était une passion. Et on retrouve ça dans les trois types d'antisémites que vous avez cités dans la recherche. Mais le cas de Charlus, peut-être juste pour y revenir un instant, est quand même étrange, puisque, au fond, est-il vraiment antisémite si c'est son désir pour Bloch qui le conduit à dire toutes ces choses à partir dans ce délire? Si, au fond, il y a du désir, est-ce que...
Charlus est un antisémite patrimonial, qu'est-ce que vous voulez? C'est la France tout entière. Il se vit lui-même comme la France tout entière, et donc il confond le juif et l'étranger. Mais son antisémitisme patrimonial ne l'empêche pas de trouver absolument détestable l'affaire Dreyfus, qui, dit-il, détruit la société par l'afflux des membres de la Ligue de la Patrie française, que reçoivent ses cousines, d'ailleurs. Et il dit, comme si une opinion politique donnait droit à une qualification sociale. C'est-à-dire qu'il est l'un des premiers à repérer que l'antisémitisme bontain, l'antisémitisme salonard, est en vérité l'antisémitisme des arrivistes qui ont compris par cette passion-là qu'ils pourraient éventuellement parvenir à leur fin, mondaine. Donc, il est antisémite. Oui, bien sûr, il est antisémite. Mais c'est un antisémite qui déteste les antisémites dans la mesure où, d'une certaine manière, il considère que seul son antisémitisme à lui est acceptable et recevable. Il faudrait ajouter, alors si c'est le cas, bon, aucun antisémitisme n'est recevable naturellement, mais il faudrait ajouter peut-être parmi les antisémitismes étranges, celui de Bloch lui-même. Bloch lui-même, qui lui aussi est un Dreyfusard, mais enfin non seulement il est Dreyfusard, mais en plus il est juif. Si vous voulez, donc à l'époque, il a vraiment rien pour plaire. Mais alors Bloch, c'est celui qui, un jour, le narrateur est avec le marquis de Saint-Loup sur le sable, sur une plage à Balbec. Un jour que nous étions assis sur le sable, Saint-Loup et moi, nous entendîmes d'une tente de toile contre laquelle nous étions sortir des imprécations contre le fourmillement d'Israélites qui infestaient Balbec. « On ne peut pas faire deux pas sans s'en rencontrer », disait la voix. « Je ne suis pas par principe irréductiblement hostile à la nationalité juif, mais si, il y a pléthore. On n'entend que « Titonk Abraham, chefuch à Kop ». On se croirait Ruta Poukir. » C'est Proust écrit de cette façon-là. Hein. Et l'homme qui tonne ainsi contre Israël, ajoute le narrateur, sorti enfin de la tente, nous levâmes les yeux sur cet antisémite. C'était mon camarade Bloch.
Bon, c'est moi qui vous ai lancé hein, sur la recherche, donc oui. Je n'ai rien à dire. Mais venons à la question juive, à la réflexion sur la question juive de Sartre.
Cela dit, vous n'avez pas tort, hein, pardon, parce que Sartre a lu La recherche du temps perdu et de très près.
Il y a une référence dans la question juive, on aura peut-être le temps
d'y venir. Oui, mais en fait, l'époque où Sartre a écrit la question juive, on est 2 ans après la guerre à peu près, est une époque où Sartre n'a pas encore honte de dire qu'il a lu Proust. Plus tard, il dira, c'est un écrivain bourgeois, épouvantable, affreux, atroce, etc., etc. Mieux vaut des écrivains ouvriéristes. Je ne sais plus comment il le dit, mais il se défendra ensuite d'avoir aimé Proust, non pas de l'avoir lu, mais de l'avoir aimé. Mais là, on est encore à un moment où Sartre accepte de se laisser tout simplement influencer par celui qui, de toute façon, l'influence, qu'il le nie ou qu'il y consente.
Alors, que dire de cette phrase qu'on retient le plus souvent des réflexions sur la question juive, s'il y en a une qu'on connaît, c'est souvent... Si le juif n'existait pas, j'allais dire, si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait.
Oui, on pourrait inverser la proposition et voir ce que ça donne. Si l'antisémite n'existait pas, le juif l'inventerait. ce qui est en fait la position Woody Allen.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Annie Hall et le passage où le personnage de Woody Allen parle avec un ami et lui dit « Ah, celui-là, il est antisémite. » Et puis la blague qu'il m'a fait « Jew it, Jew it !» Non, mais c'est pas possible. Je l'ai pas en tête comme ça.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « Do it », il entend « Jew it ». C'est l'oreille paranoïaque de Woody Allen. On va entendre, tiens, cet extrait, justement.
« I distinctly heard it. He muttered under his breath, « Jew ». No, I'm not. We were walking off the tennis court, and, you know, he was there and me and his wife, and he looked at her, and then they both looked at me, and under his breath he said, Jew.
Alvy, you're a total paranoid.
What, how am I a paranoid? What? I pick up on those kind of things. You know, I was having lunch with some guys from NBC, so I said, did you eat yet or what? And Tom Christie said, no, Jew. Not did you, Jew eat, Jew. No, not did you eat, but Jew eat, Jew. You get it? Jew eat.
Max.
Stop calling me Max.
Why, Max? It's a good name for you. Max, you see conspiracies in everything.
No, I don't. You know, I was in a record store. Listen to this. So I know there's this big, tall, blonde, crew-cutted guy, and he's looking at me in a funny way and smiling, and he's saying, yes, we have a sale this week on Wagner. Wagner, Max. Wagner. So I know what he's really trying to tell me, very significantly, Wagner.
Voilà, on aurait pu... Ce passage est très drôle. On aurait pu aussi citer le moment où il est à table avec ses beaux-parents, etc. Et puis... lui se voit lui-même à table, mais en tenue rabbinique, ce que évidemment il.
Ce qui lui arrive assez souvent d'ailleurs, il se déguise assez souvent lui-même en rabbin. Et on aurait pu aussi d'ailleurs, puisqu'il le cite, citer l'adage alénien sur Wagner, qui est que quand j'entends la musique de Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. C'est paranoïa contre paranoïa en fait. Hein. Avec la figure de Woody Allen, on a la figure du juif qui invente l'antisémite, en l'occurrence, en entendant do it derrière did you do it. Il entend la parole de l'antisémite. Alors, chez Sartre, c'est la proposition exactement inverse, mais comme la forme est la même, ça nous aide à le comprendre. Paranoïa contre paranoïa, si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait. Ce qui est une phrase, alors c'est vrai, d'abord il faut insister sur le fait que c'est une phrase à laquelle on a réduit les réflexions sur la question juive de Jean-Paul Sartre. Il y a comme ça des phrases qui permettent qui nous dispensent au fond de lire un livre en donnant au lecteur du dimanche, au lecteur de troisième main, le sentiment que le livre est tout entier contenu dans cette formule, c'est pas le cas. On va faire l'effort ici de se plonger un peu dans la lettre de ce texte tout à fait étonnant que sont les réflexions sur la question juive, pour voir qu'il y a beaucoup d'autres choses que cela. Mais enfin, il faut quand même faire un sort rapide à cette sentence, hein, si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait. Une sentence qui a, je crois, je ne peux pas m'empêcher d'y penser, mais c'est alors là vraiment c'est une réminiscence des années 80, Paola, vous n'étiez pas du tout née, c'était une pub pour une marque de pantalon qui s'appelait Pantashop, je crois.
Si quoi ?
Si Pantashop n'existait pas !
Il faudrait l'inventer, cher ami.
En tout cas, dans l'immédiat, revenons-en à cette phrase. Si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait. C'est une phrase typiquement sartrienne. C'est une phrase qui correspond en tout point au dispositif mis en place par Sartre, dès l'être et le néant, dès la nausée, en vérité. C'est-à-dire au dispositif qui consiste à faire la généalogie de l'essence, d'un individu. L'essence d'un individu, ça n'est pas c'est comme ça qu'on le définit. En principe, c'est ce qu'un individu est au départ, en germe, et qu'il ne fait que déployer ensuite dans le temps de sa vie. Du point de vue de Sartre, l'essence est une création deux fois rétrospective. Soit à la façon d'un individu qui, ayant vécu toute sa vie librement, dit à la fin de la vie, ben voilà, c'était mon destin, donc il se donne une essence, un destin, il donne le sentiment que tous ces événements étaient contenus en germe dans le départ même de l'existence, soit c'est le dispositif du garçon de café, c'est-à-dire le sentiment que sous le regard d'autrui, un garçon de café, que ce soit le monsieur Fasquelle de la nausée ou bien le garçon de café hyperactif, le monsieur Fasquelle est un peu indolent, le garçon de café hyperactif de l'être et le néant, quel que soit le garçon de café dont on parle chez Sartre, c'est un individu qui est tout entier constitué par les regards qu'on pose sur lui. Quand la lumière s'éteint, cet homme-là s'endort ou sort de sa fonction. De sorte que la désignation d'une essence est tout entière l'effet d'un regard. Du coup, qu'est-ce qui peut manquer à ce livre ? Enfin, manquer. Rien ne manque aux livres. Les livres disent ce qu'ils disent. Mais l'une des dimensions que Sartre n'aborde pas vraiment dans les réflexions sur la question juive, c'est une dimension envisagée par Jean Kélévitch 10 ans plus tard dans Ressembler, dissembler, 10 ou 20 ans plus tard d'ailleurs, j'ai pas la date, dans laquelle Jean Kélévitch dit que reprend le dispositif sartrien d'une désignation du juif par l'antisémite, par la haine, donc d'une fabrication du bouc émissaire, bon, très bien. Et dans le même temps, il explique que le juif, être juif, c'est porter en soi la difficulté, dit-il, d'être différent. Donc Jean Kélévitch fait droit également à une spécificité identitaire du juif. Alors, il est amusant de voir de quelle façon Sartre lui-même évacue cette question dans les réflexions sur la question juive. Écoutez Sartre.
Je ne nierai pas qu'il y ait une race juive. Mais il faut d'abord nous comprendre. Si l'on entend par race ce complexe indéfinissable où l'on fait entrer pêle-mêle des caractères somatiques et des traits intellectuels et moraux, je n'y crois pas plus qu'aux tables tournantes. Ce que j'appellerais, faute de mieux, caractère ethnique, ce sont certaines conformations physiques héritées qu'on rencontre plus fréquemment chez les juifs que chez les non-juifs. Encore convient-il de se montrer prudent. Il faudrait plutôt dire des races juives. On sait que tous les sémites ne sont pas juifs, ce qui complique le problème. On sait aussi que certains juifs blonds de Russie sont plus éloignés encore d'un juif crépus d'Algérie que d'un arien de Prusse orientale. En vérité, chaque pays a ses juifs, et la représentation que nous pouvons nous faire de l'israélite ne correspond guère à celle que s'en font nos voisins. Quand je vivais à Berlin, dans les commencements du régime nazi, j'avais 2 amis français dont l'un était juif et l'autre non. Le juif présentait un type sémite accentué. Il avait un nez courbe, les oreilles décollées, les lèvres épaisses. Un français l'eût reconnu sans hésiter pour israélite. Mais comme il était blond, sec et flegmatique, les Allemands n'y voyaient que du feu. Il se divertissait parfois à sortir avec des SS qui ne se doutaient pas de sa race. Et l'un d'eux lui dit un jour « Je suis capable de reconnaître un juif à 100 mètres. » Mon autre ami, au contraire, corse et catholique, fils et petit-fils de catholique, avait les cheveux noirs et un peu frisés, le nez bourbonien, le teint pâle, il était court et gras. Les gamins lui jetaient des pierres dans la rue en l'appelant « Youd ». C'est qu'il se rapprochait d'un certain type de juif oriental qui est plus populaire dans la représentation des Allemands. Quoi qu'il en soit, et même en admettant que tous les juifs ont certains traits physiques en commun, on ne saurait en conclure, sinon par la plus vague des analogies, qu'ils doivent présenter aussi les mêmes traits de caractère.
C'est un passage où Sartre évacue la question de la race juive. C'est-à-dire, ne questionne pas le juif du point de vue du juif, au fond. Évacue cette question-là, ou ce sentiment-là, la question de l'identité, en vérité. Puisque l'identité est pour lui réduite au processus par lequel on réifie, on chosifie un individu en lui accolant une identité. Mais la façon qu'il a de récuser, de ne pas aborder cette question, de dire qu'il ne l'aborde pas, permet au détour, comme ça, comme une pichenette presque, permet de répondre à tous ceux qui, de bonne foi, disent « Mais enfin, quand même, un juif, ça ressemble à un juif. Quand même, on voit bien ce que c'est que le type juif. » Celui qui dit ça et qui se défend de tout antisémitisme en le disant, se voit répondre par Sartre que la notion même de type juif n'est que indûment résumée dans les caractéristiques qu'un tel trouve au type juif. Si type juif il y en a plusieurs. Si race juive il y en a plusieurs. Donc c'est une façon aussi pour lui de répondre justement à cette tentation de réifier et au sentiment d'ailleurs qu'un juif peut avoir lui-même de ressembler à un juif.
Mais oui, et d'ailleurs, il met aussi en exergue le processus qui est qu'un juif peut se reconnaître comme juif lui-même lorsqu'il est confronté à l'antisémitisme. Il y a parfois le fait qu'on prenne conscience d'être juif face aux propos antisémites.
Mais bien sûr, et vous savez à qui il pense quand il dit ça?
À Raymond Aron.
Oui, bravo. À Raymond Aron, exactement. Raymond Aron, pour l'anecdote, en seconde, brillant élève de seconde dans un lycée versaillais, il me semble, ultra intégré. Je veux dire, c'était les trois frères Aaron, on les appelait les petits marrons de Versailles. Il n'y a pas plus intégré. Hein. Il n'y a pas plus intégré, il n'y a pas moins saillant, si vous voulez, comme judaïsme. Et Aaron se retrouve donc en seconde devant son prof, et son prof d'histoire. Et il a un prof d'histoire anti-Dreyfusard. Et Aaron, qui en seconde était déjà plus fort que ses professeurs d'histoire, explique à son professeur d'histoire qu'il dit n'importe quoi et se voit traité de youpin par le prof d'histoire lui-même. Et ce faisant, il prend acte de son judaïsme. Et Aaron dira lui-même « Je suis le juif de Sartre. Je suis celui qui ne savait pas du tout qu'il était juif jusqu'au jour où on l'a traité de youtre ou de youpin. » Avant cela, il n'avait aucune idée de son propre judaïsme. Et ça n'est qu'après 1967, après son pamphlet contre De Gaulle, qui s'appelle « De Gaulle, Israël et les Juifs », après la sortie de De Gaulle sur le peuple d'élite, sur de lui et dominateur, ça n'est qu'en 1967 et au-delà que Raymond Aaron donnera à son judaïsme une dimension plus ontologique, plus tellurique presque d'ailleurs, et fera entrer la question israélienne dans sa réflexion politique et géopolitique. Mais à l'heure où il est en seconde et où il se fait traiter de youpin par son prof d'histoire, il est exactement dans la position du juif de Sartre, c'est-à-dire celui à qui l'antisémite apprend qu'il est juif. Sartre le dit lui-même, l'antisémite a ce malheur d'avoir un besoin vital de l'ennemi qu'il veut détruire. C'est-à-dire que nous avons une co-constitution d'identité, en vérité. En construisant l'identité de son adversaire, l'antisémite se construit lui-même comme antisémite. Écoutez Sartre, quand il explique ce qu'il appelle, alors c'est très fort, la formule est très belle, il explique le choix que l'antisémite fait de lui-même. Voilà ce qu'il dit.
Il choisit l'irrémédiable par peur de sa liberté, la médiocrité par peur de la solitude. Et de cette médiocrité irrémédiable, il fait une aristocratie figée par orgueil. Pour ces diverses opérations, l'existence du juif lui est absolument nécessaire. À qui donc sans cela serait-il supérieur ? Mieux encore, c'est en face du juif et du juif seul que l'antisémite se réalise comme sujet de droit. Si, par miracle, tous les Israélites étaient exterminés comme ils le souhaitent, ils se retrouveraient concierges ou boutiquiers dans une société fortement hiérarchisée où la qualité de vrai Français serait à vil prix puisque tout le monde la posséderait. Ils perdraient le sentiment de ses droits sur son pays puisque personne ne les lui contesterait plus. Et cette égalité profonde qui le rapprochait du noble et du riche, elle disparaîtrait tout d'un coup puisqu'elle était toute négative. Ces échecs qu'il attribuait à la concurrence déloyale des Juifs, il faudrait qu'il les imputât d'urgence à quelque autre cause ou qu'il s'interrogeât sur lui-même. Il risquerait de tomber dans l'aigreur, dans une haine mélancolique des classes privilégiées. Ainsi, l'antisémite a-t-il ce malheur d'avoir un besoin vital de l'ennemi qu'il veut détruire ?
Vous savez, Lowenthal, au fond, vous n'êtes pas un type si mauvais que ça.
Vous trouvez ?
Toutes ces professions de foi que je fais, ce n'est pas contre vous, personnellement.
Non, bien entendu.
C'est la marche de l'histoire. Voyez-vous, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous voulez retourner en Allemagne. Il n'y a pas de raison de rester dans un endroit où on ne veut pas de vous. Vous feriez mieux de retourner dans votre pays.
C'est l'Allemagne, mon pays. Mon père est né et a vécu en Allemagne. Mon grand-père est né et a vécu en Allemagne. Au fait, d'où êtes-vous exactement vous-même ? Je ne situe pas très bien votre accent. Vous avez des intonations que je n'ai entendues chez personne.
J'ai vécu pendant les 20 dernières années de ma vie en Allemagne.
Autriche.
Près de la frontière.
C'est ce qui m'avait semblé.
Löwenthal, vous savez que c'est une vérité historique que les Juifs sont à la base de tous nos malheurs.
Ah, voyons.
Vous le reconnaissez ?
Ah, voyons. Les Juifs et les pêcheurs à la ligne.
Les pêcheurs à la ligne ? Pourquoi les pêcheurs à la ligne ?
Pourquoi les Juifs ?
Pourquoi les Juifs ?
Reprenons le texte que vous venez de lire de Sartre. Et si on l'applique aujourd'hui au contexte, est-ce qu'on ne peut pas penser que cet antisémite qui serait tout d'un coup dépourvu de son juif, qui ne trouverait plus son juif à haïr, est-ce qu'il ne pourrait pas recharger...
Son juif à haïr, pardon Paula, son juif à haïr ou bien son juif à aimer. C'est aussi une dimension de l'antisémite, c'est-à-dire que tout antisémite a son bon juif. Céline avait son bon juif. Tout antisémite a son bon juif. Ou sa bonne juive, d'ailleurs. À la façon dont on dit « je ne suis pas raciste, j'ai d'excellents amis étrangers », mais ils sont charmants et ils se tiennent bien à table. L'antisémite a besoin de haïr le juif comme il a besoin de brandir le juif qu'il aime pour montrer qu'il ne les déteste pas tous. Voilà, je clôt cette parenthèse.
Est-ce que ce réservoir, une fois vidé, pourrait pas être rempli par une autre haine? La haine des gitans, la haine des arabes, la haine des riches?
Oui. Mais il se trouve que le judaïsme, pour des raisons qui cette fois-ci portent sur la question juive elle-même, et pour des raisons historiques, que Sartre examine assez peu, que ce soit des raisons bibliques ou historiques, le peuple de l'usure ou bien le peuple déicide, pour tout un arsenal de raisons, une religion non prosélyte, peu importe, le juif est le terrain d'élection du bouc émissariat. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Il y en a d'autres. Il ne faut pas de jaloux ni de concurrence des victimes. Mais il est vrai que, historiquement, l'antisémitisme est une passion tout à fait particulière. J'irai juste un tout petit peu plus loin sur ce point-là. On en a déjà parlé, d'ailleurs. En souscrivant à la nuance qu'établit Jean Kelevitch entre le racisme et l'antisémitisme. On dit tout le temps, d'ailleurs à l'heure où nous enregistrons cette émission, il y a eu à Créteil il n'y a pas longtemps une agression ignoble où des gens se sont infiltrés dans une maison, ont violé la jeune fille et essayé de soutirer le bas de laine d'un couple juif dont ils se sont dit, puisqu'ils sont juifs, qu'ils ont de l'argent. Donc à l'heure où nous enregistrons cette émission, il existe encore des initiatives de cet ordre-là et même elles se multiplient et en vérité ces initiatives sont éternelles. C'est-à-dire qu'il y aura toujours cette tentation, cette passion. Mais alors, quand face à un tel événement, les autorités se mobilisent naturellement, les représentants des communautés religieuses condamnent fermement cet acte ignoble, etc., etc., et chacun s'accorde à en reconnaître l'antisémitisme, ce qui est très important, comme dans l'affaire Ilan Halimi. Il est essentiel de reconnaître l'antisémitisme, le caractère antisémite de cette agression. Mais, en général, on dit, et on en rappelle, et à bon droit d'ailleurs, à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et pour ne pas faire de mécontents. Mais dans le même temps, pour ne pas faire de mécontents, on parle de racisme et d'antisémitisme, mais on les amalgame, mais on les distingue. Et pourquoi est-ce qu'on les distingue en les amalgamant? Pourquoi ne pas dire tout simplement « nous sommes contre le racisme, dont l'antisémitisme est un cas particulier ». Parce qu'il y a dans l'antisémitisme, comme dans l'homophobie, et c'est là qu'on en a déjà parlé, Paola, une dimension tout à fait spécifique de la haine, qui n'est pas seulement haine de l'autre appuyée sur une différence objective, mais haine de soi, qui a besoin, pour se fabriquer un autre, de recourir à l'objectivité d'une différence qu'elle fabrique de toutes pièces. Donc, on tient pour crochu le nez du juif, et on fait de ces particularités historiques des juifs une reconnaissance de l'essence, on donne à tout cela une valeur identitaire. En d'autres termes, on a besoin de fabriquer l'autre, alors qu'avec le noir, la différence sautant aux yeux, c'est la thèse de Jean Kelevitch, il n'est inutile de fabriquer l'autre, l'autre est déjà là, dans une altérité spectaculaire, dans une altérité manifeste. L'altérité du juif est plus complexe comme de l'homosexuel, et plus complexe aux yeux du blanc que l'altérité du noir. Qui, pour le coup, n'est pas de la même couleur de peau, clairement. Là, il faut fabriquer cette altérité. Donc, de même qu'on invente les manies, les petits doigts en l'air des homosexuels, on invente le nez crochu, les mauvaises manières ou bien l'accent grotesque qu'on attribue aux juifs. C'est la même affaire.
Nasty little Jewish princess, la, la, la. With long bony nails and a hairdo that rinses. A horny little Jewish princess, with a garlic aroma that could level Tacoma.
Frank Zappa dans le Gai Savoir, qui se penche aujourd'hui sur les réflexions sur la question juive de Jean-Paul Sartre.
I need a hairy little Jewish princess,
la, la, la.
With a brand new nose, who knows where it goes. I want a steamy little Jewish princess,
Dites, il est limite, votre ami Paola, sur ce coup-là, non? A hairy little Jewish princess.
Oui,
non?
Mais
Avec son haleine d'ail, etc.
Ah, ça décharge, voilà. Sur le même album, Frank Zappa s'en prend à tout le monde, Catholic Girls, à Bobby Brown, qui est l'homo de San Francisco, etc.
Donc il est multiraciste.
Voilà,
hein.
Ah, ça décharge.
Ah, bah tout va bien alors. Don't know shit about cooking and is arrogant looking. A vicious little Jewish princess. Specifically happen with a pee-pee that's snapping all up inside. I just want a princess to ride. All right, back to the top.
En fait, je pense qu'on a commencé à le faire sentir, en tout cas dans ce début d'émission, mais ce qui intéresse plus Sartre encore que le juif dans ses réflexions sur la question juive, c'est l'antisémite.
Oui, ce sont des réflexions sur la question antisémite. Clairement, d'ailleurs, pour les raisons qu'on a dites. L'identité juive n'est pas l'objet des réflexions sur la question juive. C'est le judaïsme comme question, justement, ou comme réponse par l'antisémite aux problèmes qui sont les siens. Oui.
Et il y a nettement une sorte de typologie de l'antisémite. Est-ce que c'est la question que je me pose, c'est est-ce que chaque caractéristique que pointe Sartre sont des choses qui se dispersent selon les personnes, selon différentes sortes d'antisémites, ou est-ce qu'elles sont toutes contenues dans la même personne? Est-ce qu'un antisémite dispose de tous ces traits-là, c'est-à-dire la passion, le snobisme, le narcissisme, puisqu'on va pouvoir les détailler? Ou est-ce que, selon chaque antisémite, un tel est plutôt le snob, l'autre plutôt le narcissique?
Il faudrait demander aux antisémites qui nous écoutent. Il faudrait leur demander dans quelle mesure ils se reconnaissent peu, beaucoup, passionnément dans la typologie que Sartre en propose. Donc, auditeurs antisémites, n'hésitez pas. Si vous vous sentez concerné par ce que Sartre raconte ici, votre témoignage nous importe, n'est-ce pas? Votre témoignage, votre opinion nous intéresse, comme on dit. Ce qui est intéressant avec cette typologie, d'abord, c'est qu'elle est très, très nombreuse. Hein. Il y a beaucoup de traits distinctifs de l'antisémite. Et ces traits sont originaux, en fait. Comme c'est un livre qu'on lit très peu, pour des raisons évidentes, d'abord parce qu'on lit peu Sartre, contrairement à ce qu'on croit, et ensuite parce qu'on a résumé ce livre dans cette formule, donc si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait. Comme c'est un livre qu'on lit très peu, on a finalement un peu oublié ces déterminations sartriennes de l'antisémite, qui ont ceci d'original, qu'elles ne correspondent pas, encore une fois, à l'idée qu'on peut s'en faire. Le plus souvent, enfin, il repère des traits tout à fait inattendus qui sortent véritablement des sentiers battus de l'analyse de l'antisémitisme. Alors, dans cette typologie de l'antisémite, il fait d'abord, bon, évidemment, Sartre fait d'abord droit à cette peur de soi originelle, cette peur de la banalité qui était frappante dans le texte lu tout à l'heure, dans lequel Sartre explique que si le juif disparaissait, ben, l'antisémite se retrouverait tout médiocre comme il est et n'aurait plus en partage avec les plus hautes sphères de la société cette passion fondamentale qui les égalise au fond, qui les met au même niveau. Oui,
oui, mais dans le même temps, vous dites qu'il se retrouverait tout médiocre, etc. Mais à un moment, il me semble que Sartre dit que l'antisémite revendique sa médiocrité, qu'il la porte comme une fierté, en distinction justement pour se distinguer du juif qui lui est l'intellectuel, voilà.
Tout à fait, puisque l'antisémite, au fond, l'un des types, l'une des caractéristiques de l'antisémitisme chez Sartre, selon Sartre, c'est cette passion de la grégarité. Une passion de la grégarité qui est une passion paradoxale, puisque l'antisémitisme est aussi souvent vécu par celui qui l'éprouve comme une passion intime, solitaire, et dont la marginalité garantirait la vérité du contenu. Écoutez Sartre.
Il se considère comme un homme de la moyenne. S'il s'est fait antisémite, c'est qu'on ne peut pas l'être tout seul, égale communauté des médiocres. Aussi convient-il de rappeler qu'on n'est pas nécessairement humble ni même modeste parce qu'on a consenti à la médiocrité. C'est tout le contraire. Il y a un orgueil passionné des médiocres. Et l'antisémitisme est une tentative pour valoriser la médiocrité en tant que telle, pour créer l'élite des médiocres. Le vrai Français, enraciné dans sa province, dans son pays, porté par une tradition de 20 siècles, bénéficiant d'une sagesse ancestrale, guidé par des coutumes éprouvées, n'a pas besoin d'intelligence.
Tu es en France depuis quelques générations, je te l'accorde. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de Dupont, de Durand, de Poujade qui ont apporté leur sang, n'est-ce pas? Avec le tien, est-ce que tu t'es mélangé à la communauté française? Non. Eh bien, c'est toi le raciste. C'est toi le raciste, puisque tu n'as pas voulu te mélanger. Tu es venu te mettre dans la communauté française. Tu es venu profiter de la communauté française, de tout ce qu'elle t'a apporté, de cette générosité. Tu en as profité, tu t'es enrichi, tu t'es développé, et tu es resté là, dans ta secte.
Il faut préciser que dans l'archive qu'on a entendue, Poujade s'adresse à Pierre Mendès France.
Oui, c'est de Mendès qu'il parle. Oui. Tu es resté dans ta secte en inversant la proposition, en disant « c'est pas moi qui suis raciste, c'est toi qui es différent et c'est toi qui le revendique ». Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, Roland Barthes, dans ses mythologies, fait grand cas de Poujade et de la pathologie dont le poujadisme est le symptôme. Et je dois dire que ce sont des passages tout à fait brillants des mythologies quand il se penche sur Poujade.
Oui. Mais il y a beaucoup de choses à dire dans l'extrait qu'on a entendu, enfin de l'extrait qu'on a entendu, mais je voudrais revenir sur quelque chose dont Sartre parle dans les réflexions, c'est sur la rhétorique de l'antisémite. C'est quasiment absurde ce qu'on vient d'entendre, cette façon d'inverser et de transformer Mendès France en raciste. C'est absurde, personne n'y croit. Enfin, je veux dire, ça ne convainc même pas les antisémites. Et ça fait partie de ce que dit Sartre sur le langage, le peu de foi qu'accorde l'antisémite au langage, puisque de toute façon, c'est irrationnel, et il le sait, et c'est à ça qu'il adhère.
Oui, mais je le soupçonne de sincérité. Et je crains qu'il n'emporte plus d'adhésion que vous ne pensez.
Oui, mais l'adhésion, pas par... Les gens qui adhèrent à ce genre de propos n'y adhèrent pas par rationalisme. Ils ne sont pas convaincus des arguments de Poujade. Ils y adhèrent à priori, on pourrait dire.
Ils veulent exister. Écoutez Jean-Paul Sartre, qui vous répondra mieux que moi, parlant des antisémites.
Ils veulent exister tout à la fois et tout de suite. Ils ne veulent point d'opinion acquise. Ils les souhaitent innées. Comme ils ont peur du raisonnement, ils veulent adopter un mode de vie où le raisonnement et la recherche n'est qu'un rôle subordonné, où l'on ne cherche jamais que ce qu'on a déjà trouvé, et l'on ne devient jamais que ce que déjà on était.
Alors, cette généalogie de la passion antisémite chez Sartre culmine chez Poujade dans le sentiment qu'il y a une éternité de la race française qui viendrait être envahie par le bacille sémite qui refuserait de s'y mêler. Et c'est intéressant parce qu'un antisémitisme caricatural comme celui qu'on vient d'entendre est un antisémitisme qui révèle à merveille, et c'est souvent le cas avec l'antisémitisme justement, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler dessus, que c'est une matière passionnante parce que c'est une matière... en un sens hospitalière, disponible. Elle montre à merveille ses propres mécanismes. Et Sartre explique que si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait, et que l'antisémite a la passion de la médiocrité et veut forger une communauté des médiocres tout en se vivant comme marginal. Or, en un sens, on pourrait dire que Poujade, implicitement dans une déclaration comme celle-là, souscrit à peu près à la totalité du diagnostic sartrien. C'est-à-dire qu'il se présente exactement comme Sartre a voulu présenter l'antisémite. Écoutez-le encore, Sartre.
L'antisémitisme a choisi la haine parce que la haine est une foi. Il a choisi originellement de dévaloriser les mots et les raisons. Comme il se sent à l'aise à présent, comme elles lui paraissent futiles et légères, les discussions sur les droits du juif, il s'est situé d'emblée sur un autre terrain. Ne croyez pas que les antisémites se méprennent tout à fait sur l'absurdité de ces réponses. Ils savent que leurs discours sont légers, contestables, mais ils s'en amusent. C'est leur adversaire qui a le devoir d'user sérieusement des mots puisqu'ils croient aux mots. Eux, ils ont le droit de jouer.
Mais il y a comme un arrière-goût de pisse, elle me dit. Non mais d'accord, non mais c'est vrai. Mais moi, je suis pour rien, moi. Moi, je suis un irresponsable, hein, je veux dire, professionnel, attention. Hein. Non, moi, je lui ai dit, laissez-moi tranquille. Hein. De toute façon, à partir de maintenant, c'est fini, je ferme ma gueule, attends, ça va. Non, j'ai décidé de repositionner complètement mon image. À partir de maintenant, je vais zouker. Hey, musique. C'est vrai que j'ai ça dans le sang. Ça c'est bien, ça j'ai le droit de le faire, ça. Ah bah avec ça, t'as pas d'emmerdement, avec tant de courage. Ah bah c'est clair.
Raphaël, on a entendu un extrait de Dieudonné à la main d'or, sûrement. Mais dans l'extrait qu'on vient d'entendre, hein, qu'on a fait entendre à nos auditeurs, il n'est pas question de juifs.
Non, il n'est pas question de juif, mais il est question de la difficulté dans laquelle il se trouve de parler du juif. Ce qui fait que dans le spectacle de Dieudonné, jouant avec talent, malheureusement, sur le fait qu'il ne peut pas ou qu'il se vive comme interdit de parole, au fond, il fait du juif le grand tabou de son discours, c'est-à-dire celui qui est omniprésent parce qu'on ne le cite jamais. C'est ce qui est un procédé, alors pour le coup, qui, pour le meilleur, par exemple, donne des chansons comme « Le blason » de Brassens, vous savez, où il parle du sexe des femmes sans jamais dire le mot « con », en expliquant que celui qui l'inventa devait en être infameux, parce que c'est un mot atroce pour désigner la plus belle chose qui soit. Ici, le procédé est le même, au fond, le procédé est le même, malheureusement, le procédé est le même, c'est-à-dire qu'il ne dit pas ce dont il parle et on n'entend que cela. Cela dit, la meilleure preuve que Dieudonné se trompe, ce sont les sketchs de Desproges, par exemple. Desproges est allé plus loin que Dieudonné pourrait en rêver lui-même. La différence, c'est que Dieudonné présente un discours ouvertement politique sous une forme facétieuse, alors que Desproges prend l'air doctoral pour dire ce qu'il vit lui-même comme autant de conneries. C'est ça la différence, c'est ça la nuance, c'est-à-dire que c'est une nuance fondamentale, c'est une nuance fondamentale, c'est-à-dire que dans un cas, c'est la facétie et la couverture d'un propos inacceptable, dans l'autre, le propos inacceptable recouvre, ce qui ne trompe personne, la facétie ou le facétieux qui parle, c'est-à-dire Desproges. Donc Dieudonné, c'est le contraire de Desproges. C'est le contraire parfait de Desproges, c'est le contraire de la liberté au fond, puisque c'est la censure elle-même. C'est-à-dire qu'en se représentant lui-même ou en se présentant lui-même comme censuré par les autorités, il se plaint de n'avoir pas le droit de tenir lui-même le discours du censeur, ce que Desproges n'a jamais revendiqué.
On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. On pouvait rester, hein.
N'empêche que on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des juifs. Mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui. Qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irais pointer au Vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Quelle suffisance, hein? Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Je n'ai rien contre ces gens-là. Bien au contraire. Je suis fier d'être citoyen de ce beau pays de France où les juifs courent toujours.
Et dans les caractéristiques que Sartre donne à l'antisémite, auxquelles souscrit vraiment Dieudonné dans...
À un moment, par exemple, Sartre dit, parlant des antisémites, il dit « Ils aiment même à jouer avec le discours, car en donnant des raisons bouffonnes, ils jettent le discrédit sur le sérieux de leur interlocuteur. Ils sont de mauvaise foi avec délices, car il s'agit pour eux non pas de persuader par de bons arguments, mais d'intimider ou de désorienter. » Tiens, écoutez.
C'est vrai qu'après ce qui m'est arrivé, j'aurais pu glisser dans le larmoyant, me répandre dans la pleurniche, tu sais, pardon, excusez-moi, 4000 ans de persécution quand même. Non, ça n'a pas le droit. C'est... Non, ça on n'a pas le droit de dire des choses comme ça, surtout dans le climat actuel, faut essayer de pas mettre de l'huile sur le feu, donc... Hein, moi je suis taquin, mais je suis pas kamikaze, attends, j'ai des gosses, hein. Oh non, arrêtez les conneries, ça va les gens. Moi j'ai décidé de bosser pour ma retraite maintenant. J'ai une grande carrière qui m'attend dans le show business, tu vas voir. Une belle carrière de foutu, t'inquiète pas, j'ai compris comment ça marche. À moi les Molières, à moi les Césars, à moi les Sept d'Or. Bouge pas. Ah non, j'ai eu chaud au Miquette, et là je fais le mariole, je sors les trompettes, mais il y a 6 mois, tu n'entendais moins ma grande gueule. Crois-moi.
L'antisémitisme qui repose sur la distinction maurrassienne entre la France réelle et la France légale. C'est cet antisémitisme-là qui est aujourd'hui recouvert, si j'ose dire, par d'autres formes. Néanmoins, voici ce que Sartre dit de cet antisémitisme mal en point, encore qu'il est toujours d'éminents représentants. Écoutez-le.
L'antisémite réclame pour les autres un ordre rigoureux et pour lui un désordre sans responsabilité. Il veut se mettre au-dessus des lois tout en échappant à la conscience de sa liberté et de sa solitude. Il use donc d'un subterfuge. Le juif participe aux élections, il y a des juifs dans le gouvernement, donc le pouvoir légal est vicié à la base. Mieux, il n'existe plus et il est légitime de ne pas tenir compte de ses décrets. Il ne s'agit plus d'ailleurs de désobéissance, on ne désobéit pas à ce qui n'existe pas. Ainsi, y aura-t-il pour l'antisémite une France réelle, avec un gouvernement réel, mais diffus, et sans organes spécialisés, et une France abstraite, officielle, enjuivée, contre laquelle il sied de se dresser.
Et vous voyez comment Sartre fait le lien ici, sans le vouloir, entre l'antisémitisme traditionnel de la différence entre une France réelle et une France légale, une France française et une France enjuivée, puisque la loi est l'émanation de la juiverie aux yeux de l'antisémite. Il fait le lien entre cette représentation traditionnelle et le fait que, comme il le dit, l'antisémite se vit comme un rebelle au pouvoir. Et ça, on le trouve dans l'antisémitisme de Dieudonné, Soral, etc. Parce que, là encore, Sartre, l'antisémitisme en démocratie est une forme sournoise de ce qu'on nomme la lutte du citoyen contre les pouvoirs. Interroger quelqu'un de ces jeunes gens turbulents qui enfreignent placidement la loi et se mettent à plusieurs pour frapper un juif dans une rue déserte, il vous dira qu'il souhaite un pouvoir fort qui lui ôte l'écrasante responsabilité de penser par lui-même. La République étant un pouvoir faible, il est amené à l'indiscipline par amour de l'obéissance. Et ça, c'est typiquement la position Soral. Typiquement la position Soral. Il est amené à l'indiscipline par amour de l'obéissance. C'est-à-dire que ce qu'il promeut, manifestement, c'est un régime autoritaire, mais la façon qu'il a de le promouvoir, c'est de se mettre lui-même en marge de la loi dont il regrette la mollesse. Et cette disposition du caractère antisémite, alors là, pour le coup, traverse complètement les siècles, se trouve dans les réflexions sur la question juive, et on en fait les frais aujourd'hui à tout bout de champ.
Mais, et ça rejoint une autre partie de réflexion sur la question juive, qui est le rôle du défenseur des juifs, et il dit malheureusement, ce sont les démocrates. Et il lit les démocrates un peu faibles qui, à leur façon, rejoignent les antisémites parce que, dans leur conception du juif, ils regrettent que il le défend face aux antisémites, mais ils regrettent que le juif soit juif et pas tout simplement homme. Et du coup, il lui dénie son identité de juif.
À quel passage pensez-vous, là ? Je ne l'ai pas en tête, là, pour
Alors,
le coup.
Ah, c'est au début du deuxième chapitre.
Les juifs ont un ami, pourtant, le démocrate. Mais c'est un piètre défenseur. Sans doute, il proclame que tous les hommes sont égaux en droit, sans doute, il a fondé la Ligue des droits de l'homme, mais cette déclaration même montre la faiblesse de sa position. Il a choisi, une fois pour toutes, au XVIIIe siècle, l'esprit d'analyse. Il n'a pas Dieu pour les synthèses concrètes que lui présente l'histoire. Il ne connaît pas le juif, ni l'arabe, ni le nègre, ni le bourgeois, ni l'ouvrier, mais seulement l'homme, en tout temps, en tout lieu pareil à lui-même. Toutes les collectivités, il les résout en éléments individuels. Un corps physique est pour lui une somme de molécules, un corps social, une somme d'individus. Et par individu, il entend une incarnation singulière des traits universels qui font la nature humaine. Ainsi, l'antisémite et le démocrate poursuivent inlassablement leur dialogue sans jamais se comprendre ni s'apercevoir qu'ils ne parlent pas des mêmes choses. Si l'antisémite reproche aux juifs son avarice, le démocrate répondra qu'il connaît des juifs qui ne sont pas avares et des chrétiens qui le sont. Mais l'antisémite n'est pas convaincu pour autant. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a une avarice juive, c'est-à-dire influencée par cette totalité synthétique qu'est la personne juive.
Ce qui est fou dans ce texte, c'est qu'il désigne... Alors, il y a deux choses folles. D'abord, c'est que le tort du démocrate, c'est de croire qu'il croise l'homme, le genre humain, à la faveur d'un individu. Or, c'est exactement le reproche que Joseph de Maistre fait aux révolutionnaires, dont il considère qu'il parle de l'homme en général, alors que lui-même ne connaît que des Anglais, des Français, des Italiens, des Russes, etc. En d'autres termes, Joseph de Maistre fait valoir l'irréductible enracinement de chaque individu, et donc une différence irréductible entre tous les représentants de la communauté humaine, différence qui est méconnue par ce goût de l'abstraction des amis du genre humain ou de l'humanité comme genre, que leur abstraction, au fond, dispense en un sens de l'engagement. Mais ce qui est frappant dans ce passage, c'est qu'il accole aux démocrates le tort de disposer de l'esprit d'analyse. Bien. Or, que dit-il de l'antisémite ? Que c'est un esprit de synthèse. Écoutez-le. Le juif, dit l'antisémite, est tout entier mauvais. Tout entier juif. Ses vertus, s'il en a, du fait qu'elles sont à lui, se tournent en vice. Les ouvrages qui sortent de ses mains portent nécessairement sa marque. Et s'il construit un pont, ce pont est mauvais, étant juif, de la première arche jusqu'à la dernière. Une même action faite par un juif et par un chrétien n'a pas le même sens dans les deux cas. Le juif communique à tout ce qu'il touche, je ne sais quelle exécrable qualité. Ce fut l'accès des piscines que les Allemands interdirent aux Juifs en premier lieu. Il leur semblait que si le corps d'un Israélite se plongeait dans cette eau captive, elle serait salie tout entière. À la lettre, le Juif souille jusqu'à l'air qu'il respire. Si nous essayons de formuler en proposition abstraite le principe auquel on se réfère, il viendra ceci. Un tout est plus et autre chose que la somme de ses parties. Un tout détermine le sens et le caractère profond des parties qui le composent. Autrement dit, l'antisémite a besoin, dans son a priori, dans son préjugé, d'identifier une essence juive, de la tenir pour rétrospective, enfin non, non pas pour rétrospective, mais de la tenir pour initiale, alors qu'elle est une création rétrospective, de la tenir pour initiale, et de considérer qu'ensuite, cette essence du juif répand ses métastases dans tout le corps de la société. Et ce faisant, il assigne à l'antisémite ce qu'il appelle un esprit de synthèse. Ce sont des esprits synthétiques, c'est-à-dire ce sont des êtres qui, à qui la désignation d'une essence donne la tentation de considérer que le juif est tout entier juif, c'est-à-dire tout entier mauvais, et qu'il y a plus dans le tout que dans la somme de ses parties.
Parmi les critiques, les qualités que Sartre donne à l'antisémite, il y en a une assez étonnante quand même, c'est un moment où l'antisémite serait un optimiste. Alors je lis le passage auquel je fais référence, il dit « Sous l'amertume de l'antisémite se dissimule cette croyance optimiste que l'harmonie, une fois le mal évincé, se rétablira d'elle-même. Sa tâche est donc uniquement négative. Il ne saurait être question de construire une société, mais seulement de purifier celle qui existe. »
Pour atteindre ce but, ajoute-t-il, le concours des juifs de bonne volonté serait inutile et même néfaste, et d'ailleurs un juif ne saurait être de bonne volonté. Chevalier du bien, l'antisémite est sacré. Le juif est lui aussi sacré à sa manière, sacré comme les intouchables, comme les indigènes, frappés d'un tabou. Oui, en effet, c'est un optimiste, enfin si disons que l'antisémitisme est un optimisme, alors c'est un optimisme qui, comme souvent les optimismes d'ailleurs, ne veut pas ce qu'il veut. C'est-à-dire que l'antisémite veut la mort du juif, hein, c'est ce que Sartre finira par dire. L'antisémite veut la mort du juif, mais il ne la veut pas dans la mesure où la mort du juif le renverrait à lui-même, c'est-à-dire le dépouillerait de ce qui lui permet de se forger à lui-même une identité, de se forger pour lui-même une identité. Mais dans le même temps, le dualisme que l'antisémite fait valoir entre d'un côté les Français et de l'autre côté les Juifs, pour le dire très simplement, ce dualisme a quelque chose de rassurant, dans la mesure où, du point de vue de l'antisémite, s'il ne s'agit, c'est Sartre qui parle, s'il ne s'agit que d'ôter le mal, c'est que le bien est déjà donné. Donc, le bien est quelque part, et au fond, on a juste à balayer devant notre porte. La thèse antisémite est de dire qu'un univers débarrassé des Juifs est un univers dans lequel les vices qu'on y repère disparaîtraient. Les vices qu'on repère dans le monde où nous vivons disparaîtraient.
Oui, vous avez dit que l'antisémite désire la mort du Juif. Et paradoxalement, comme le monde...
Oui, c'est l'ultime qualité, si j'ose dire, de l'antisémite. C'est l'ultime signe distinctif très caractéristique ou très typique de l'antisémite, c'est que c'est un criminel. Destructeur par fonction, sadique au cœur pur, l'antisémite est au plus profond de son cœur un criminel. Ce qu'il souhaite, ce qu'il prépare, c'est la mort du juif. Certes, nuance-t-il. Tous les ennemis du juif ne réclament pas sa mort au grand jour, mais les mesures qu'il propose et qui toutes visent à son abaissement, à son humiliation, à son bannissement, sont des succès d'années de cet assassinat qu'ils méditent en eux-mêmes. Ce sont des meurtres symboliques.
Oui, et c'est ce qui lui permet à un autre moment plus tôt dans le livre de dire que c'est impossible, il détruit l'illusion du bon gars, du bon type qui par ailleurs serait antisémite. Et il dit la bonté, pardon, ne se localise pas. Si le type est bon, il dit le bon poissonnier, etc., sympa, mais qui, de l'autre côté, est antisémite, il dit c'est pas possible. Si ce type est au fond antisémite et criminel, il est de façon, lui aussi, synthétique et totale.
Oui, c'est vrai, mais c'est l'esprit de synthèse de Sartre, pour le coup, qui parle. Et il me semble que de ce point de vue, mais il y aurait beaucoup de débats sur cette question, mais il me semble que de ce point de vue, il manque tout simplement ce que Arendt appelait la banalité du mal. C'est-à-dire, il manque le fait qu'on peut être antisémite et tout à fait sympathique et chaleureux. Et rigolo.
Oui, il dit que c'est possible, mais qu'au fond, il ne dénie pas cette possibilité-là, mais il dit que du coup, ce qu'on prend pour la sympathie, etc., n'est qu'une illusion, parce que si ce mal-là, qu'est l'antisémite, se loge, il n'est pas juste localisé. Il est,
dire cela, à mon sens, c'est en cela que je n'y souscris pas, c'est considérer que l'antisémitisme est une maladie incurable. Or, elle l'est à l'échelle d'une société ou à l'échelle de l'histoire, incontestablement, il y aura des antisémites dans 1000 ans. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. C'est-à-dire que, bon, voilà, c'est comme un phénix, si vous voulez. L'antisémitisme revient toujours, est toujours présent et n'a pas de raison de cesser, mais à l'échelle d'une société. En revanche, à l'échelle d'un individu, et c'est peut-être... L'optimisme démocratique, si vous voulez, qui veut le penser, à l'échelle d'un individu, il est possible de déconstruire ce discours. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire ici une nuance entre cette passion grégaire qui culmine dans des slogans populaires et dans des foules, et le fait que les foules haineuses que composent les antisémites sont également composées elles-mêmes d'individus qui, pris séparément, sont peut-être perméables aux arguments de Sartre comme à d'autres.
Quelques mots enfin, peut-être pour terminer, sur le rapport de l'antisémite à l'herméneutique, à l'interprétation, la façon dont il conçoit, et historique plus particulièrement, la façon dont il interprète les faits historiques à la faveur de son antisémitisme. Et Sartre le mentionne, par exemple, pour les faits de la révolte en Pologne des Polonais pour l'indépendance face aux Russes. Et il dit que les Juifs n'y ont pas pris part, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, les Polonais détestent les Juifs.
C'est une des choses les plus intéressantes qu'on trouve dans les réflexions sur la question juive, c'est cette passion de l'antisémite pour l'interprétation. Alors, il faut ici s'entendre. D'abord, le texte lui-même. L'activité intellectuelle de l'antisémite se cantonne dans l'interprétation. Il cherche dans les événements historiques le signe de la présence d'une puissance mauvaise. De là, ses inventions puériles et compliquées qu'il apparente au grand paranoïaque. Quelle est l'interprétation dont il parle ? C'est l'interprétation de mauvaise foi qui consiste à prélever dans le monde les éléments qui sont conformes à l'idée qu'on s'en fait. Tout esprit dogmatique fonctionne de cette façon-là. Il n'y a pas de doute. Qui veut haïr les Juifs, par exemple, se servira avantageusement d'une politique étrangère israélienne qu'il peut éventuellement à bon droit d'ailleurs tenir pour désastreuse et dont il verra ici le signe, le symptôme d'une pathologie beaucoup plus grave qui est l'ambition juive de dominer le monde, par exemple. L'interprétation est ici à entendre dans une logique qui n'a rien de l'interprétation. C'est-à-dire que c'est la logique du paranoïaque qui peut se tromper sur l'objet de l'agression imaginaire dont il se croit la victime, à la façon dont ce paranoïaque peut relever, comme Woody Allen au début de cette émission, on l'a entendu, peut relever ce qui semble en témoigner. Or, c'est intéressant qu'il emploie ce mot d'interprétation, parce que qu'est-ce que c'est que l'interprétation ? C'est exactement l'inverse. L'interprétation, et alors là, pour le coup, pardon, mais c'est le judaïsme qui l'enseigne. L'interprétation, c'est précisément une façon de ne pas s'en tenir à la vérité. Il faut ici entendre par vérité la vérité littérale d'un texte. La grandeur du judaïsme, comme des monothéismes de façon générale, mais plus particulièrement et en premier chronologiquement du judaïsme, c'est de ne jamais présenter un texte séparément de son commentaire, voire du commentaire de son commentaire. Le texte est lui-même recouvert comme par un vêtement du commentaire qui l'accompagne. Le texte n'est pas séparable du commentaire. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on a renoncé en un sens à la vérité littérale du texte et que le rôle de l'interprétation, c'est de nous éloigner de ce littéralisme qui donne le jour justement au pire des dogmatismes. L'interprétation est une façon de s'éloigner pour le meilleur de la vérité. Or, l'interprétation dont parle Sartre, c'est exactement l'inverse, puisqu'elle consiste à antéposer sa vérité, à savoir le juif, le juif, le juif, et à repérer ensuite dans le monde tout ce qui semble aller dans le sens d'un discours qui, de toute façon, comme il est a priori, comme c'est une décision qui précède toute délibération, ne peut qu'être étayé par ce qu'il trouvera dans le réel et en aucun cas ne s'expose à être contredit par l'éventualité d'un contre-exemple qu'il balayera d'un revers de la main aussitôt en considérant tout simplement que ça ne l'intéresse pas.
Merci Raphaël, merci à vous chers auditeurs, merci François, merci Pierre, merci Alice. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de prudence chez Aristote. Dans l'intervalle, Raphaël Antoven vous attend en personne sur son blog, où sont rassemblées de très nombreuses émissions des Nouveaux Chemins de la Connaissance, des Vendredis de la Philo et même du Gai Savoir. Précipitez-vous dans le kiosque le plus près de chez vous pour lire le numéro que Philomag consacre à l'autre, mais aussi à Étienne de la Boétie et à la servitude volontaire. Retrouvez aussi les Nouveaux Chemins de la Connaissance de 10h à 11h sur France Culture avec Adèle Van Rett. À 17h sur France Culture, l'Atelier du Pouvoir, Thomas Vider, Vincent Martini.